Gabriel mourut dans tes bras et sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore trouver la force de dire merci. Évangeline, Évangeline. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent, car l'océan parle de toi. Les vents du sud portent ta voix de la forêt jusqu'à la plaie. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Évangélie.
Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs-points de traîtres, du sol soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Oh, happy day.
Eh bien voilà mes amis, nous sommes remontés, à pied même, alors il est possible que vous me trouviez un petit peu le souffle court, mais c'est ça, nous sommes remontés de ce travail, comment on appelle ça, c'était vraiment juste une alerte au feu, ils nous font le coup, un exercice, ils nous font le coup à tous les ans, et c'est à peu près à la même époque, je pense que c'est jour pour jour d'ailleurs, toujours la même journée à la même heure. Alors au début je paniquais, mais maintenant on panique plus, on descend tranquillou, on remonte. Et ça fait travailler le cardio et on reprend les voies de service. Et on va y aller avec la presse ce matin. En gros titre, très rapidement, le coffre-fort des partis. comment les partis politiques se financent-ils. Zach Cassian, ça je vais laisser mon ami Kevin Breton vous en parler. C'est cet ailier du Canadien qui a fait parler de lui après une nuit mouvementée. Il a accepté d'aller en désintoxication. Photo également de Yannick Nézet-Séguin qui est pressenti par nul autre que le Met. Le Metropolitan Opera, ce serait quand même assez extraordinaire. Partenariat transpacifique à faire, le plus dur est à venir. Qui seront les gagnants et les perdants de cet ambitieux accord de libre-échange? Il en sera bien sûr question. Et puis, Eugénie Bouchard a dû déclarer forfait hier en raison de sa commotion cérébrale subie en septembre. Philippe Quentin écrit de Bouchard à Couillard et il dit que si l'athlète québécoise est tombée dans le piège du retour au jeu précipité, imaginez le risque couru par les adolescents victimes d'une commotion cérébrale. Qu'attendez-vous pour agir, monsieur Couillard, demande le chroniqueur. Alors, avant de passer tout de suite à un papier qui concerne monsieur Aubus, si mes souvenirs sont bons, c'est la chronique de Yves Boisvert. Je voudrais peut-être vous lire le clin d'œil de Stéphane Laporte, comme je le fais tous les jours. Il est très court. Mon clin d'œil de Stéphane Laporte, NPD pour Niqab pas dévoilé. Et Yves Boisvert qui signe donc une chronique ce matin qui s'appelle « Le pouvoir bébé ». La lettre d'excuse est un genre littéraire exigeant, dit M. Boisvert. Tout l'art de l'excuse officielle consiste à donner l'impression d'un maximum de remords en offrant un minimum d'aveux. Citation « Je profite de l'occasion pour m'excuser sincèrement auprès des gens que mon comportement aurait offusqué », a écrit Marcel Aubu, ou son cabinet de relations publiques, précise Yves Boisvert dans le communiqué annonçant sa démission du Comité olympique canadien. Faut rester vague quant à ceux à qui on s'adresse. Les gens, pas les femmes que j'ai harcelées ou qui se sont senties harcelées. Non, non, il a dit les gens. Il est préférable aussi d'utiliser le conditionnel. Après tout, rien n'a été prouvé en cours. Des gens qui auraient été offusqués. Une excuse savamment ciselée laisse planer un doute. Y a-t-il eu faute ou est-on en présence de gens un peu susceptibles? Peut-être. On n'est pas sûr que des gens, on ne sait pas qui, ont été choqués. Maître Aubu le reconnaît sans détour. Mon attitude a pu être perçue comme discutable auprès de certaines personnes de la gente féminine. L'attitude a pu être perçue. C'est une réelle possibilité. Il l'admet. Si, si, dit Boisvert ironiquement. Avez-vous dit discutable? Mais non, Maître Aubu, l'attitude a été jugée proprement vulgaire, harcelante, dégradante, pas du tout discutable. Discutable, ça fait matière à débat. Certains sont pour le pognage de cuisses des adjointes, d'autres sont d'un avis différent. C'est discutable. Je n'ai jamais entendu une femme dire « Mon patron n'arrête pas de me dire que j'ai des beaux seins, me semble que c'est discutable ça comme attitude. » Et puis, des personnes de la gente féminine, ils parlent drôle dans ces communiqués, Maître Aubu. Ça fait très 18e siècle tout d'un coup, ça, gente féminine. Mauvaise nouvelle, Maître Aubu, il n'y a pas que des femmes qui trouvent ça discutable. Certains nous disent avec un rien de nostalgie dans la voix que maintenant ces choses-là ne sont plus acceptables. C'est un travers générationnel en somme. Il suffit avec Marcel Aubu d'en user comme avec son ordinateur. Une petite mise à jour et hop, la version 2015 arrive. Son nouveau bureau d'avocat, BCF, a d'ailleurs mandaté les meilleurs spécialistes dans le domaine pour l'accompagner dans sa transformation. On souhaite bonne chance au chaperon de Marcel Aubu, dit encore Yves Boisvert. Mais le harcèlement sexuel, la vulgarité gluante, ça n'a jamais été acceptable. Ni en 1950, ni en 2015. Les hommes de 70 ou 80 ou 90 ans que je connais ne sont pas des Marcel Aubu. Ce qui a changé, c'est que des femmes parlent, nomment les choses. Euh, Très rapidement, avant que je me tourne vers mon ami Daniel Rioux, qui est déjà en studio. Vous savez, hier, on parlait d'évasion fiscale et je vous donnais ce chiffre absolument effarant que nous donnait le Journal de Montréal. Daniel, je vais me tourner vers vous. Je vais vous poser une question. Savez-vous, au Québec, la somme que représente l'évasion fiscale, vous savez, dans ces paradis fiscaux que sont les Bahamas, avez-vous une petite idée du chiffre?
Ben, ça doit être
au Québec seulement.
Okay, ça doit être à coup de millions. Peut-être on pourrait être à 1 milliard.
47 milliards.
Et, Seigneur, t'es loin.
Voilà. Alors aujourd'hui, 60 pays, et c'est pour ça que je vais prendre une minute ou deux pour vous dire cela. C'est Marc Thibodeau dans la presse qui nous dit que 60 pays endossent un plan visant à compliquer le recours aux paradis fiscaux. Mais des ONG croient que les mesures proposées ne vont pas assez loin. Les multinationales qui multiplient les stratagèmes pour minimiser leur taux d'imposition seront bientôt soumises à une série de mesures qui leur compliqueront sensiblement la tâche. Telle est du moins la promesse de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui a divulgué hier les grandes lignes d'un plan en 15 points visant à empêcher ces firmes de faire disparaître leurs bénéfices imposables dans des paradis fiscaux. Son secrétaire général, Angel Gurria, a indiqué par voie de communiqué que le plan en question, soutenu par une soixantaine de pays, représentait la plus importante réforme des règles fiscales internationales depuis près d'un siècle. L'OCDE avait reçu en 2013 le mandat d'élaborer une stratégie pour contrer les méthodes d'optimisation fiscale agressive de multinationales qui priveraient les États de revenus annuels globaux oscillant entre 130 et 315 milliards. Le nouveau plan vise notamment à empêcher que ces entreprises, en utilisant le mécanisme des paiements de transfert, réussissent à déplacer leurs revenus vers des filiales situées dans des pays où les taux d'imposition, vous le savez, sont les plus faibles. Un chiffre? De 10 à 15%, c'est la proportion de multinationales touchées par le plan de l'OCDE qui cible les entreprises générant des revenus annuels de plus de 1 milliard. Espérons qu'ils parviennent à faire bouger les choses de ce côté-là pour que ce ne soit pas toujours nous les petits finalement qui payons des impôts. Hein? Bonjour Daniel.
Bonjour Clotilde.
Déjà, parce que quand j'ai dit déjà, c'est parce que depuis que j'ai cette formule avec des collaborateurs qui viennent à chaque semaine, du coup j'ai mes collaborateurs du lundi, du mardi, et ça me fait mesurer à quel point le temps passe vite.
Très vite.
C'est effrayant. Vous savez, quand on a des rendez-vous ponctuels comme ça, là, ouh là 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 là, comment allez-vous alors?
Très bien, merci. On a eu notre exercice de feu, puis ben toutes oui. Les deux, on a décidé de monter l'escalier pour arriver plus vite au microphone pour retrouver les auditeurs.
Absolument. Oh, absolument.
Et pouvoir leur faire profiter de ce sujet, j'espère.
Et Mathieu aussi.
Ah, puis Mathieu aussi.
T'es monté à pied, Mathieu?
Bien sûr.
Oh, ben oui.
Toujours, en fait.
Bon, mais vous voyez, c'est cinq étages.
Ben, peut-être que je vais commencer à faire ça, moi, parce que je pensais que j'étais pas capable. Bon, c'est sûr, je suis arrivée à bout de souffle, mais je suis capable. Finalement.
Mais plus on le fait, moins on est à bout de souffle.
Ah, ben, c'est ce que je voudrais vérifier. Là, je me suis aperçue que ça a commencé à être dur. Ben, en fait, arrivé au quatrième.
Oui.
C'est le dernier étage qui a été un peu difficile. Alors, il faudrait que j'arrive marche après marche.
Puis à Noël, vous rendre, je crois, au 15e, puis redescendre au 5e. Parfait, c'est un défi, ça. C'est un beau défi.
Bon, Daniel, au lieu de me lancer des défis imbéciles comme ça et infaisables, de quoi allez-vous nous parler ce matin?
Alors, j'ai commencé par un article de Mylène Moisan dans la presse qui s'intitule « Ce sont des fuyants ». Et ce sera suivi d'une découverte que j'ai faite dans le magazine Québec Science de mars 2015. Mm-hmm. Et je trouve que ça pourrait être intéressant. Les gens à la maison vont dire, ben coudonc, on parle encore des Syriens, de la migration, mais on parle encore, on n'en parlera jamais assez.
Qu'on en parle.
Mais l'histoire se répète. Oui. Alors, dans ce beau texte de Mylène Moisan, l'histoire se répète. Et à travers ce texte, j'ai retrouvé des expériences personnelles, des racines aussi, je vous les pointerai, je vous les dirai en temps et lieu. Alors, l'histoire se répète et on est Puis avec le Québec Science, là, l'article du Québec Science, vous allez dire, ben voyons. Alors, vous allez découvrir.
Moi, je vous laisse aller.
J'y vais de ce pas.
D'accord.
Alors, c'est dans la presse, ce sont des fuyants de Mylène Moisan. C'est apparu le 27 septembre 2015. Dans mon vieux Petit Larousse illustré 1986, je lis migration. Voici la définition. Déplacement de population, de groupe d'un pays dans un autre pour s'y établir sous l'influence de facteurs économiques ou politiques. Il y a en filigrane une destination. Les oies migrent, hein, les caribous migrent quand il fait trop chaud, trop froid, quand ils ont faim. Ils quittent un lieu vers un autre, vers un pâturage plus fertile, vers un endroit où se reproduire. Les mouvements sont prévisibles, organisés. Ils s'inscrivent dans la marche du monde animal. Les Syriens ne migrent pas. Ils fuient. Comme les Irlandais catholiques au milieu du 19e siècle, qui fuyaient la grande famine, la misère crasse, la répression du gouvernement britannique, si on s'en souvient pas trop, hein. De 1820 à 1920, pendant 100 ans, on estime que 3 millions d'Irlandais ont trouvé refuge aux États-Unis, terre d'accueil protestante. Ça fait 30 000 par année pendant 100 ans. Il faut pas oublier aussi les Irlandais qui sont venus ici au Québec, dont j'ai une partie de ce sang qui coule dans mes veines.
Okay.
Et ils étaient protestants, mais ils parlaient, et ceux qui venaient ici étaient catholiques, mais ils parlaient la langue anglaise, et c'est une belle façon de pouvoir assimiler les Canadiens français
mais
de l'époque.
Mais oui.
Ils ont bousculé, ces Irlandais, la société au propre et au figuré. Comme les 769 Juifs polonais en février 1942 qui tentaient de gagner la Palestine à bord du vétuste Struma et qui devaient d'abord transiter par la Turquie. La Turquie, qui les a repoussés à cette époque, en mer Noire.
C'est le fameux livre, hein? Et film Exodus.
Exodus.
C'est ça.
Et le bateau a été torpillé par les Russes. Alors, l'histoire se poursuit. Il y a eu dans cette torpille, un seul survivant. Alors, depuis 2011, en Syrie, quand Bachar el-Assad a décidé qu'il ne se laisserait pas détrôner par les rebelles, le pays est un sanglant champ de bataille. Le groupe État islamique est venu jeter de l'huile sur le feu. Là, j'y vais avec des chiffres. Il y a eu plus de 240 000 morts, 70 000 civils, dont 12 000 enfants, 1 million de blessés, 4 millions de personnes qui sont parties. 4 millions de fuyants, ça veut dire presque le cinquième de la population qui se sauve hors de leur pays, comme les habitants d'une maison en feu. Ça brûle, alors on sacre notre camp.
Oui, absolument. Et comme on a connu d'ailleurs en Europe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà,
on
absolument.
On a vu, moi je sais que mes parents me racontaient quand ils voyaient sur les routes, quoi, les gens transportant littéralement leur maison sur
tout
leur dos.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'eux, peut-être en Europe, ils sont un petit peu plus sensibilisés.
Oui, probablement.
Je dis pas qu'on est sans cœur, mais on n'a pas dans nos racines, moi non plus, j'ai pas vu ça de mon vivant. Mais c'est dans mes gènes.
Ça existe.
On me l'a communiqué.
Absolument. Puis je me souviens qu'à Expo 67, je connais une famille de Tchèques qui ont... le monsieur était venu participer comme architecte ici à Expo 67 pour Terre des Hommes, pour ériger le pavillon de la Tchécoslovaquie. Et avant le printemps de Prague, et puis c'est en 68, mais il avait averti sa famille, puis les gens de la famille ont fui. Ils ont dit, moi, j'ai des informations de ce côté-ci de l'Atlantique. Fuyez.
Oui, absolument.
Et c'était bien avant 67. Alors, c'est pour vous dire que c'est pas d'aujourd'hui.
Non, c'est ça.
Et tous ces gens qui sacrent leur camp comme ça, ben pour aller où? On ne sait pas encore, ça, on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut partir tout de suite. Il faut emporter le minimum. On laisse les albums de famille, les souvenirs, et le chat, lui, pourra toujours s'arranger tout seul.
Ouais,
concernant
sûr.
Les albums de famille, je me souviens d'une activité que j'ai faite en francisation avec une famille colombienne et la dame. On faisait un exercice. Apportez vos albums de famille pour qu'on puisse faire un exercice de la famille, à dire mon cousin, ma cousine, faire des jeux de prononciation.
Oui, ouais.
Et une dame, une belle juge de la Colombie, me dit « Daniel, je suis partie sur mon album ».
Oh.
J'étais menacée de mort. Donc, ça m'a rappelé ça. C'est pour ça que je vous dis que je vous ponctue. On s'assure que tout le monde est en vie. Le reste n'importe pas à ce moment précis. Si on se retourne pour regarder derrière, on voit la maison brûler. On voit quelque chose comme sa vie s'envoler en cendres. Ça, c'est un grave deuil. C'est la même chose pour ces Syriens qui fuient, ceux qui vivaient tranquillement à Alep, qui avaient l'habitude de prendre le thé sous les oliviers.
Ouais.
Hein, c'est beau.
Ouais.
Qui travaillaient, qui élevaient leurs enfants. Ils ne demandaient rien d'autre que de continuer à rester là avant que ça ne devienne nulle part. Et nous, on regarde le brasier, on les regarde s'enfuir. On a peur, On se dit que dans le lot, il pourrait y en avoir quelques-uns qui brûlent d'envie de venir mettre le feu à notre maison. On sort la calculatrice pour prendre la mesure de notre hospitalité, comme si on cherchait à mesurer la quantité de sucre qu'on peut dissoudre dans l'eau avant d'atteindre le point de saturation. L'Allemagne, elle, de son côté, fait bande à part. Le pays a ouvert ses portes à 800 000 fuyants en quelques semaines. La chancelière allemande Angela Merkel a calculé que les avantages sont plus grands que les risques. Israël, de son côté, a fermé ses portes à double tour, les pays du Golfe aussi. Quelques 1500 Syriens ont trouvé refuge aux États-Unis depuis le début de la guerre, il y a 4 ans. Washington a promis d'en accueillir de 5000 à 8000 d'ici un an. De notre côté, au Canada, Stephen Harper a promis de laisser entrer 10 000 Syriens. D'ici 4 ans, il l'a répété pendant le débat des chefs jeudi, il y a deux semaines.
Oui,
pas question d'ouvrir les vannes. Le premier ministre canadien choisit son camp. Il préfère envoyer des pompiers en Syrie plutôt que de donner refuge aux exilés. De notre côté, le Québec attend 1900 fuyants d'ici la fin de l'année et Philippe Couillard voudra en accueillir des milliers d'autres. Mais Ottawa contrôle les vannes de l'immigration,
oui.
On le sait bien.
Mais à Québec, ils font office de vraiment, ils font un effort incroyable.
Oui.
Ils vont accueillir quoi, 205, je ne sais plus combien, mais à Québec même.
Puis il va y avoir des classes de francisation parce que souvent,
oui.
C'est des gens qui sont plus anglophiles que
c'est
francophiles.
Ça,
donc,
avoir
des classes de francisation, ça va donner l'ouvrage du travail à des gens. Puis une rencontre aussi culturel en même temps. On dit que nous, les pays riches, qui trop souvent essayons de nous convaincre que c'est loin et donc que cela ne nous regarde pas. On est porté à faire ça. Il y a quelques années, le Québec a accueilli quelques milliers de Kosovars au début des années 2000. Et je me souviens m'être occupée des enfants, des petits-enfants Kosovars, les avoir grillés pour l'école, les avoir amenés chez le dentiste, puis toute une aventure chez le dentiste aussi. Ils fuyaient à ce moment-là, et comme les Syriens, une guerre qui déchirait leur pays. Et ces gens-là ne parlaient pas le français. Quand ils ont ouvert la bouche et qu'ils ont commencé à raconter leur histoire, c'est toute une histoire de vie.
Oui, oui, oui.
Alors, Mylène Moisan dit qu'à 2 maisons de chez elle, il habite des Kosovars. Elle dit qu'elle se voisine. Mais ces 2 garçons sont amis avec leurs enfants, qui sont magnifiquement bien élevés. Je ne m'étais jamais posé la question d'où venaient les nouveaux amis de mes garçons. Ils sont nés ici, parlent un très bon français, sans accent. Et chez eux, ils parlent albanais. Et leurs parents, eux, sont propriétaires d'un triplex qu'ils ont transformé en grande maison familiale.
Wow.
Les grands-parents habitent à l'étage, sont très familiaux.
Oui. Oui,
les
sûr.
Parents travaillent, ont des voitures plus récentes et un peu comme les oies, ces gens, c'est monsieur et madame du Kosovo, retournent chaque année sur la terre où ils sont nés.
Ah, oh, c'est magnifique.
C'est, bon, hein?
C'est signé Mylène Moisan, c'était en fin de semaine, je pense. Hein?
Non, c'était la presse, 27 septembre 2015.
C'est ça, merci. Toujours en compagnie de Daniel Rioux, un autre sujet ou peut-être un espèce de prolongement.
Prolongement un peu parce qu'on parle, on se dit qu'on voit les Syriens de loin, c'est loin de nous, donc ça ne nous préoccupe pas. Mais l'histoire se répète, ça je le dis, j'adore l'histoire. Donc, dans le Québec Science de mars 2015, j'ai trouvé un article et ça se passait ici. On a pris certains immigrants pour des ennemis et vous allez voir en quoi. Il y a peut-être des gens, des auditeurs qui nous écoutent, qui viennent de la région d'Amos et peut-être ça va leur rappeler des anecdotes ou peut-être leur grand-mère, leur grand-père leur raconter. Alors, le titre, il n'y a pas d'auteur, je n'ai pas vu d'auteur, alors c'est Québec Science, mars 2015.
Oui.
Le crime de ne pas être pure laine.
Ah oui.
Ouais. Alors, c'est en janvier 1915. Il y a plusieurs centaines de personnes du jeune quartier Saint-Michel à Montréal qui reçoivent chez elles la visite impromptue de miliciens. Rien de bien agréable, on s'entend. Les agents les informent qu'elles sont maintenant considérées comme étrangers ennemis. C'est quelque chose. Explication. Ces gens sont pour la plupart des Ukrainiens de Galicie, région alors rattachée à l'Empire austro-hongrois. Or, ce dernier est en guerre contre le Royaume-Uni, donc contre le Canada.
Ah, ben oui.
Ces ennemis, entre guillemets, sont mis manu militari à bord d'un train qui les transporte près d'Amos au fin fond de la forêt boréale. J'ose imaginer. Au total, ils seront 1200 à être internés dans les baraques d'un grand camp appelé Spirit Lake.
1200?
1200.
Voulez-vous me rappeler en quelle année c'était
ça? C'est en janvier 1915 que les miliciens sont arrivés dans le quartier Saint-Michel.
Il y a 100 ans.
Pour leur dire, vous êtes des ennemis. Vous êtes des ennemis, vous venez de l'Ukraine. Et puis vous êtes des ennemis. Et puis on va vous amener dans une région éloignée, Amos, en Abitibi, au fin fond de la forêt boréale. Puis vous allez être internés dans des baraques d'un grand camp qui s'appelle Spirit Lake. En faisant des recherches dans Google, vous allez voir, c'est un site aujourd'hui qu'on peut visiter. C'est l'un des 24 lieux, ça, cet endroit-là, c'est l'un des 24 lieux de détention pour étrangers mis sur pied au pays pendant la Grande Guerre de 1914-1918. Les mois qui suivent seront éprouvants. Leurs conditions de détention sont exécrables et ils sont soumis aux travaux forcés. Imaginez-vous, sous la surveillance zélée de combien de gardiens, Clotilde?
Ils étaient 1200, je ne sais pas.
200 gardiens.
Ben oui.
Ben voyons, gardons ça, toi. Alors, le cas de...
Ça
donne du travail, puis 200 gardiens pour 1200 personnes. Très simple, sûrement, même pas.
Il va y avoir des enfants là-dedans.
Il y avait des enfants là-dedans. Oui, il y a des photos avec des jeunes, des petits, des tout petits, qui ont 3-4 ans, là, pas plus. Alors, le camp de Spirit Lake fermera ses portes en janvier 1917. Le calvaire des forçats ne sera pas terminé pour autant.
Ça. Qu'est-ce qu'on en a fait après?
Ben, regardez bien. Puisqu'on les affectera aux chaînes de production des usines d'obus et de munitions de Montréal et de Québec. Même une fois l'armistice signé, un député conservateur ontarien a déclaré il s'appelait Herbert Clements. Il disait dans une déclaration en mars 1919, « J'affirme sans hésitation que chaque étranger ennemi qui a été interné durant la guerre est aujourd'hui tout autant un ennemi qu'il l'était alors, et j'exige du gouvernement actuel que chacun des étrangers dans notre dominion soit déporté à la première occasion. » Et il disait, « Des bateaux destinés au transport du bétail feraient très bien l'affaire. »
C'est incroyable.
Le fameux camp de Spirit Lake a été transformé en ferme expérimentale après la Grande Guerre. C'est aujourd'hui un site patrimonial. Un centre d'interprétation y était inauguré en 2010 et il a été reconnu l'an dernier par le prix du jury des Grands Prix du tourisme québécois.
C'est incroyable.
C'est quelque chose comme histoire. Hein? Oh. Moi, quand ces deux articles-là, vraiment, j'ai dit waouh.
Mais oui, merci de nous les avoir présentés. Et vous avez encore même le temps pour une petite brève, mon ami Daniel.
Je vais essayer. Alors, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce.
Oui.
Et puis, s'il fait beau, ben, si vous voulez aller vous promener avec un accompagnateur, bras dessus,
bras dessous,
vous pouvez marcher dans une réserve de la biosphère, c'est-à-dire le centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire.
Hein. Ah oui.
Hein. Le Mont-Saint-Hilaire est une colline très spéciale. C'est la première réserve de la biosphère qui a été désignée par l'UNESCO au Canada. Donc, s'il fait beau, allez-y. Mais on vous dit d'arriver tôt pour éviter la file d'attente. Et puis, vous pouvez chou-chou-chou en voiture, l'Expo Rail, le Musée ferroviaire canadien. Et c'est à Saint-Constant.
Okay.
Alors, vous pourriez aller visiter, toucher des wagons, faire un petit tour de train-train.
D'accord.
Et puis avoir du plaisir, surtout s'il fait beau.
Merci beaucoup, Daniel. Vous savez, Daniel, que depuis ce matin, je passe des petits messages. Et là, comme j'ai 30 secondes avant de vous remercier pour vrai, je voudrais lancer les messages. Nous avons besoin d'autres collaborateurs ici pour l'émission Les Voix de service. Plus il y a de voix, plus on est de fous, bien sûr, mais plus surtout il y aura d'articles et de papiers comme ça, lus comme ceux que vous nous avez lus ce matin. Et Dieu sait si c'est intéressant. Alors, je lance le message. Si vous voulez vous aussi faire de la radio, contactez-nous via notre site internet www.vuesetvoix.com. Daniel Rioux, je vous retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait.
Dès 9h30 cette fois-ci.
Oui.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Pour le nouvel attaquant du Canadien, Zach Cashion, ou bien ça s'améliore, là, c'est de la façon qu'on perçoit l'événement, mais dans tous les cas, il s'en va en cure de désintox. Je vous en dis un peu plus au sport. C'est Kevin Breton qui prend la relève de Clotilde Seille pour les prochaines minutes. Le Journal de Montréal d'aujourd'hui, ben c'est la grande nouvelle, ou en tout cas la nouvelle qui retient le plus l'attention des journalistes sportifs aujourd'hui. Je parle évidemment de Zach Cashion et de l'accident de l'auto dans lequel il a été impliqué. Nouveau chapitre dans cette histoire signée Jonathan Bernier dans le Journal de Montréal. Victime d'une fracture du nez et d'un autre au pied gauche lors de l'accident de la route dans laquelle deux jeunes femmes et lui ont été impliqués dimanche matin, Zach Keshian aura tout le temps de panser ses blessures. En début de soirée hier, l'Association des joueurs de la LNH a annoncé que l'attaquant avait été suspendu sans salaire par le Canadien et qu'il devra se soumettre à une cure de désintoxication. Le syndicat des joueurs a précisé que Keshian avait été inscrit au programme offert par la LNH en matière de lutte contre l'abus de drogue et d'alcool. L'attaquant de 24 ans recommencera à toucher son salaire de 2 millions de dollars annuels lorsque les administrateurs du programme, menés conjointement par la LNH et la JLNH, auront convenu qu'il est en mesure de retourner au jeu. Plus tôt en journée, Marc Bergevin n'a pas mâché ses mots à l'égard de Zach Keshian. « Nous sommes des professionnels, nous devons nous comporter comme tels. C'est un manque de caractère et de jugement de sa part », a-t-il lancé sans détour. Au moment où Bergevin a rencontré la presse, la lumière n'avait pas encore été entièrement faite sur les circonstances entourant l'incident. « Je ne connais pas encore tous les détails, mais c'est un événement qui nous déçoit. À 6h30 du matin, c'est une décision qu'on ne supporte pas », a tout de même ajouté le directeur général du Canadien. Au moins, les blessures subies par Keshian ne devraient pas nécessiter d'intervention chirurgicale. Lorsque le Canadien a fait son acquisition, la réputation de Keshian était bien établie à travers la LNH. Bergevin a reconnu qu'il était même au courant des frasques de celui qu'il a acquis en retour de Brendan Prust. Il y a une raison pour laquelle ce type de joueur est disponible. On a pris un risque, mais un risque calculé. Il n'est pas arrivé ici avec un contrat de 8 ans en poche. On a voulu lui donner une chance au cours. On a voulu donner la chance au coureur, a-t-il spécifié. Une chance que Keshian, qui dispute la dernière année de son entente, n'aura mis que trois semaines à brûler. Bergevin aurait sans doute préféré que sa nouvelle acquisition se garde une petite gêne et fasse oublier sa mauvaise réputation avant de laisser son naturel prendre les dessus. « Tu m'enlèves les mots de la bouche, j'aime l'expression « une petite gêne », a répondu Bergevin à l'auteur de ces lignes. Pour certains, les leçons seront toujours plus difficiles à assimiler que pour d'autres. Malheureusement pour le Canadien et pour lui, il semble que Keshian fasse partie du premier groupe. Je pensais qu'il avait déjà eu un wake-up call. Je ne sais pas comment tu peux en avoir d'autres. J'espère qu'il s'en servira d'une façon positive. Mais le prochain réveil n'aura peut-être pas lieu à Montréal. On va voir ce qui va se passer et on prendra les bonnes décisions pour l'organisation. À laisser tomber Bergevin qui, à ce moment-là, n'avait toujours pas contacté son joueur. Ben, un autre joueur de hockey qui, comme le veut l'expression québécoise, va prendre son trou, c'est Raphi Thorez, qui a écopé hier d'une suspension de 41 matchs pour un coup à la tête asséné à Jakob Zilfenberg des Ducks d'Anaheim durant un match préparatoire disputé samedi. Le vétéran de 33 ans avait refusé de se déplacer à New York pour livrer sa version des faits au comité de discipline de la LNH au cours des dernières heures. L'agitateur aurait plutôt opté pour une entrevue téléphonique qui s'est déroulée plus tôt dans la journée. Le fautif sera donc privé d'un total de 624 844 $ en salaire. Sur la phase de jeu en question, Thorez a patiné en angle SOS pour heurter son rival dans un angle mort. Les arbitres ont aussitôt chassé le joueur des Sharks pour le reste de la soirée. Le gars s'est présenté devant le comité 11 fois. « Et disons que je n'avais pas vraiment le choix », a déclaré le préfet de la discipline de la LNH, Stéphane Quintal, en entrevue avec la station radiophonique 91.9 Sport. Thorez n'en est pas à ses premières démêlées, car il a été sanctionné 4 fois pendant sa carrière pour des motifs similaires. Il avait entre autres frappé Jordan Eberle, Nate Prosser, Marian Hossa et Jared Stoll. Sa charge à l'endroit de Hossa lui avait valu une sanction, on s'en rappelle, de 25 rencontres. Thorez n'est pas le premier à subir les foudres de la LNH de façon aussi stricte. À ce jour, c'est Billy Coutu qui est celui ayant obtenu la suspension la plus sévère. En 1927, le porte-couleur des Bruins de Boston et ex-capitaine du Canadien de Montréal s'en est pris à l'arbitre Jerry Laflamme durant un match et a été banni à vie du circuit, en plus de recevoir une amende de 100 $. Bon, je vous rappelle que c'était en 1927. Les billets bruns de 100 $ valaient beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. Dan Maloney, évoluant avec les Red Wings de Détroit en 1975, est le premier hockeyeur s'étant retrouvé en cours pour des agissements sur la glace. Il avait attaqué Brian Delaney des Maple Leafs de Toronto avec son bâton. Le tribunal lui avait ordonné de ne pas jouer dans la ville reine pendant 2 ans. Figure connue des partisans du tricolore, Alexander Perezoguin a été jeté à l'ombre pour l'équivalent de 89 matchs en raison d'un coup de zing d'un joueur de baseball envoyé au visage de Garrett Stafford au cours d'un affrontement dans la Ligue américaine en 2004. Et pour sa part, le défenseur Slava Voynov, qui n'est plus associé aux Kings de Los Angeles depuis peu de temps, est celui ayant reçu la pénalité la plus importante en matière de parties manquées. Appréhendé pour violence conjugale, le Russe a raté la quasi-totalité de la dernière campagne et a ultérieurement été déporté. Quant à un événement s'étant produit sur une patinoire de la LNH, Chris Simon était celui qui avait été pénalisé le plus fortement avant lundi. Son coup de patin au pied de Jarkko Ruutu des Penguins de Pittsburgh avait incité le comité de discipline à lui décerner une suspension de 30 matchs. Mais tout n'était pas sombre dans l'entourage du Canadien hier matin, là, si on fait abstraction de l'histoire Cashion. Après avoir connu un camp splendide, Mike Condon a appris qu'il amorcerait la saison à Montréal. Au cours des 3 dernières semaines, le gardien de 25 ans a donc réussi à prouver à l'état-major du Canadien qu'il était supérieur à Dustin Tokarski pour occuper le rôle d'adjoint à Carey Price. « Je suis très excité, mais pas surpris. J'ai toujours eu confiance en mes habilités », a lancé Condon, qui, en l'espace de 2 saisons, passe donc de la ECHL, donc la East Coast, à la LNH. Je sais que ce que nous acquérons peut nous être enlevé à tout moment, alors je ferai tout en mon possible pour demeurer ici le plus longtemps possible. » En 93 minutes de jeu au cours du calendrier préparatoire, l'Américain n'a accordé aucun but sur 38 lancés. Tout un contraste avec Tokarski qui, en 90 minutes, a cédé 8 fois sur 45 tirs. Condon a bien performé, il a mérité ce poste, il a été supérieur à Tokarski, a déclaré sans hésitation le directeur général du Canadien. Est-ce que Dustin a paru fragile au cours du camp? Oui. Mais est-ce qu'il peut rebondir? Assurément. On passe maintenant au soccer, un texte d'Alain Bergeron dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Le Canada n'a pas participé au tournoi olympique de soccer masculin depuis 1984 à Los Angeles et 4 Québécois tentent cette semaine de libérer le pays de cette malédiction. Une victoire ou un match nul contre Cuba ce soir à Denver assurerait les Canadiens du 2e rang du groupe A et les pousserait en demi-finale du tournoi de qualification olympique de la zone CONCACAF samedi à Salt Lake City contre le Mexique, déjà gagnant du groupe B. La vie est encore faite de si et de peut-être tant que la phase préliminaire n'est pas complétée, mais l'enjeu d'accéder à la finale brille déjà au loin. Les 2 équipes finalistes iront aux Jeux de Rio en 2016. C'est tout pour l'espoir. Oui, on leur souhaite absolument.
Parce que moi, je ne sais pas, il me semble qu'on a quelques bons joueurs.
1984, je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup le soccer.
Moi, je connais quand même un petit peu, oui. Puis on a quelques très bons joueurs, entre autres en MLS, qu'on pourrait réunir. Ben, j'imagine que c'est ce qu'ils ont fait là, pour faire une équipe canadienne qui se tienne, qui ne serait peut-être pas forcément battre au premier tour. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir.
Merci.
Dans quel journal vu que le rouge et noir faisait dur? J'ai pensé
le rouge et noir?
Oui. C'est possible, non?
Le rouge et or?
Le rouge et or? Ah, ce serait le rouge et or.
C'est le rouge noir qui est l'équipe d'Ottawa. Il y a le rouge noir dans la Ligue canadienne et il y a le rouge et or à Laval. Donc, la confusion est excusée.
Ah, oh, merci.
je te donne l'absolution.
Amen. Merci
ça
beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Kevin, et dans quelques secondes, je me tourne vers Christiane Campagna. Et rebonjour Christiane.
Ah, rebonjour.
Une autre des voix de service ce matin. J'aime ça quand il y en a beaucoup comme ça. Ça bouge, ça rentre, ça sort, ça vient. Ah, j'adore. Alors, un autre papier.
Bien, tout d'abord, ce matin, on a appris qu'un Canadien avait gagné le prix Nobel de physique qu'il partage avec un Japonais. Il s'agit de M. Arthur B. McDonald de Kingston, qui est d'origine australienne, mais qui œuvre au département de physique de l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Il partage le prix Nobel de cette année avec le physicien japonais Takaki Kajita.
Oui.
Et il œuvre dans le domaine des particules. Ils ont découvert les oscillations des neutrinos. Et d'ailleurs, sur Twitter, tous les candidats l'ont félicité, y compris M. Harper, mais malgré ce tweet vraiment rigolo de, oui, encore Daniel Thibault, qui dit « En apprenant qu'un Canadien avait reçu le Nobel de physique, M. Harper a dit « Qui l'a laissé parler, celui-là? » Mais bien sûr, en campagne électorale, on aime tous les scientifiques et on les félicite.
Ben oui, c'est sûr.
Ah là là.
Sinon, je m'adresse aux gens qui utilisent des produits Apple ce matin, ce qui n'est pas mon cas. Mais deux articles intéressants dans Protégez-vous, sur branchez-vous.com plutôt, des articles de Laurent Lassalle, qui est le rédacteur en chef. Tout d'abord, si vous avez commencé à utiliser le système iOS 9, il pourrait avoir gonflé votre consommation de données cellulaires.
Je suis au courant et j'ai fait attention à ça, oui.
Parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est là par défaut, qui s'appelle Assistance Wi-Fi. Et sa vocation, c'est de faire en sorte de télécharger certaines données de votre réseau cellulaire lorsque votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi considéré comme faible.
Oui.
Alors, si vous, à la maison, au travail, vous vous branchez sur le Wi-Fi pour économiser, mais qu'il a de la difficulté, il va aller chercher l'aide de votre réseau 3G. Alors, il faut aller désactiver ça. Dans l'article, on a tous les détails techniques là, que je ne vous donnerai pas.
Mais, moi, je pense que c'est assez facile. Hein. Si même moi, je l'ai trouvé facilement, c'est parce que je trouve ça intéressant quand
il
même.
Il faut aller dans Réglages.
C'est ça.
Et on... tout au bas, je pense. Données cellulaires.
Réseau cellulaire. Et tout en bas.
Il y a Assistance Wi-Fi.
Voilà, exactement. Et c'est là qu'il faut faire absolument. Non, j'en ai pas besoin. Voilà, Wi-Fi, parce qu'il est systématiquement ouvert.
C'est ça, puis ils disent qu'on ne sait pas trop, c'est est-ce que ça veut dire système lent ou faible, jusqu'à quel point, à quel niveau de faiblesse du réseau est-ce qu'il part. Mais si d'habitude, vous vous promeniez dans la maison et que vous aviez de la difficulté à regarder quelque chose sur Netflix et que maintenant tout est facile, faudrait peut-être se méfier.
Exactement.
Et aussi, on se rappelle qu'il y a 3 mois, Apple lançait son service musical par abonnement. On en avait beaucoup parlé à cause de Taylor Swift, parce que pendant l'essai gratuit de 3 mois, les artistes n'allaient pas être payés. Finalement, ils l'ont été. Mais là, le 3 mois est terminé et c'est automatique si vous l'aviez essayé, votre abonnement. Alors, il se peut que récemment, 9,99 pour un individu ou 14,99 ait été débité de votre carte
mais comment
de
ils ont la
crédit.
Carte? Mais comment ils ont le numéro?
Mais parce que vous avez déjà un compte Apple, tout ça, quand vous vous inscrivez.
Peut-être
parce que vous achetez de la musique, parce que vous achetez des applications, ils l'ont déjà. Alors, il paraît que cette fois-ci, se désabonner d'Apple Music est loin d'être aussi convivial que d'utiliser le service. Alors, encore une fois, on nous donne toute une marche à suivre. Mais cette fois-ci, elle est vraiment...
compliquée.
Vraiment complexe. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur branchez-vous.com ou à demander à des amis plus techno qui s'y connaissent mieux. Ou, à moins que vous décidiez de le garder, si vous
servez,
fait votre affaire. Mais si ce n'est pas le cas, méfiez-vous, les 3 mois sont écoulés.
Et c'est 9,99 par mois?
Oui.
Ah là 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 là, c'est très cher.
On vous indique toute la marche à suivre pour empêcher son renouvellement automatique.
Est-ce qu'on sait si c'est la même chose avec les Spotify et autres streaming? Non, on ne sait pas. Il faudrait peut-être aller s'informer, de cela.
Parce qu'il y en a, c'est-à-dire que si ce sont des services qui ont une option gratuite, c'est la première fois que je vois cette option-là de 3 mois, il y en a qui ont carrément un service avec pub, c'est gratuit, sans pub,
oui,
c'est payant.
Oui, c'est ça.
Dans ce cas-là, c'est un peu différent. Mais quand vous êtes abonné à des services comme ça, ça vaut la peine de retourner voir vos paramètres de temps à autre, comme il faut vérifier ses paramètres de confidentialité Facebook aussi de temps en temps, pour tout mettre à jour.
Eh bien, bravo, merci beaucoup, Christiane Campagna. On s'en va en région. La faute à papa, c'est une chronique de Denis Graton ce matin dans Le Devoir. Denis Graton qui nous dit, effectivement, c'est une nouvelle qui est tombée aussi dans le courant de la matinée. Dans le courant de la journée d'hier. C'est une triste nouvelle pour les francophones d'Orléans et d'Ottawa. On apprenait hier de TFO que l'hebdomadaire francophone L'Express d'Orléans a mis un terme à sa version imprimé. L'Express a été fondé, nous rappelle Graton, en 1983. Il sera toujours disponible sur les plateformes électroniques, mais ce petit journal qu'on aimait bien ramasser au dépanneur ou à la caisse populaire pour le lire, pour se divertir, qui parlait des gens et des événements de chez nous, n'est plus. Cette nouvelle, comme on dit, vient me chercher. Ben oui, je sais que l'avenir des journaux papier est précaire et que les nouvelles générations préfèrent se renseigner sur d'autres plateformes. C'est l'avenir de la presse écrite, pour le meilleur et pour le pire. Mais cette nouvelle, néanmoins, m'attriste, écrit toujours M. Graton, parce que l'Express a indirectement joué un grand rôle dans ma carrière. Mon père a fait carrière à l'Université d'Ottawa, mais il a souvent répété qu'il avait toujours rêvé d'être journaliste. La vie en a voulu autrement. Mais à sa retraite, à la fin des années 80, alors qu'il était âgé dans la jeune soixantaine, l'Express l'a embauché comme journaliste. Mon père se plaisait beaucoup dans ses nouvelles fonctions. Il avait perdu ma mère en 82, il s'ennuyait parfois, seul, chez lui. L'Express lui avait donné une chance de reprendre un peu sa place dans la communauté. Une chance de se sentir utile à nouveau, une chance de vivre son rêve et j'étais content de le voir si heureux. Heureux comme un poisson dans l'eau. Une année ou deux après son embauche à cet hebdo, mon père, avec l'approbation de la direction, m'a donné une chronique hebdomadaire, une chronique humoristique intitulée « Seulement à Vanier ». Donc mes premières armes comme chroniqueur, nous dit Denis Graton, je les ai faites à l'Express. Cet hebdo a été mon école et Dieu sait que j'avais des leçons à apprendre sur ce drôle de métier. Je dois beaucoup à l'Express et à ses patrons de l'époque et bien entendu à mon père qui s'assurait de corriger et souvent censurer mes textes avant de les soumettre à ses boss. Sans ce filtre humain qu'a été papa, je pense que mes chroniques n'auraient jamais été publiées et que je serais toujours vendeur itinérant de viande congelée. C'était mon emploi à temps plein à l'époque, malgré mon diplôme collégial en journalisme en poche. Ne riez pas. Comme dit le proverbe, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Mon père a vite fait ses preuves comme journaliste dans la région d'Ottawa-Orléans. On admirait sa plume, son entre-gens et sa connaissance approfondie des sujets. Lui qui avait été conseiller scolaire et conseiller municipal de Vanier. Voilà, alors vous comprendrez, dit M. Graton à la toute fin de sa chronique, pourquoi la disparition de la version de l'Express, la version papier de l'Express me touche tant. Je lui dois tellement. Alors, dans Le Soleil, c'est la fin de la saga des poubelles avec photos à l'appui de poubelles jonchant les rues de Québec et Valérie Gaudreau qui écrit « Fini les camions de vidange tard le soir dans les rues du centre-ville, la collecte des ordures et du recyclage se fera de 9h du matin à 16h, mais les citoyens devront prendre leur mal en patience pour un bout de temps encore car les changements ne se feront qu'à partir de juin. Cette décision de l'administration Labaume, inscrite dans un nouvel appel d'offres lancé sous peu, confirme l'enterrement en règle de la réforme ratée de la collecte des matières résiduelles lancée en avril dans Saint-Roch, Vieux-Québec, Saint-Sauveur, Montcalm et Limoilou. Ce sera terminé. Je comprends, les gens, la solution qu'on a là, elle est mauvaise, a reconnu le maire de Québec, Régis Labaume, qui a vécu la saga des poubelles en avril. Là, on y met toute la gomme. On ne peut pas en faire plus, a-t-il assuré. Alors espérons que ça va régler tous les problèmes là-bas. Et ce matin, en région, les éditoriaux concernent beaucoup ce partenariat transpacifique qui, je l'ai eu, merci beaucoup, dont on parle énormément et je le disais, surtout en région, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Et Brigitte Breton écrit dans son éditorial de ce matin, juste avant que je vous lis celui de M. Bégin dans la Tribune sur le même sujet, voici quelques extraits de ce qu'elle nous dit dans Le Soleil. Sacrifiés dans l'accord de partenariat transpacifique, les producteurs laitiers et les fabricants de pièces d'automobiles ne doivent pas se faire d'illusions. Le parti qui formera le prochain gouvernement ne renoncera pas à une zone de libre-échange qui donne au Canada un accès à 40% de l'économie mondiale et à 800 millions de personnes. Tirer des engagements fermes des différents chefs de parti, y compris de Stephen Harper, avant qu'ils atténuent les impacts négatifs de l'entente, est le plus que les perdants peuvent espérer d'ici la fin de la campagne. Le chef du NPD, Thomas Mulcair, est celui qui s'oppose le plus farouchement à l'accord conclu entre le Canada, les États-Unis, le Japon, le Mexique, le Pérou, le Chili, la Malaisie, le Vietnam, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Brunei. M. Mulcair dit de ne se sentir nullement lié par l'entente négociée en catimini par le gouvernement conservateur et conclu de surcroît en pleine campagne électorale. Le Parti libéral, lui, il s'est empressé hier de ressortir une déclaration de Tom du 4 août, affirmant être avec enthousiasme en faveur d'un accord commercial avec nos partenaires du Pacifique. Les producteurs de lait déçus que l'accord de partenariat transpacifique fasse une brèche dans le système de gestion de l'offre et s'accapare 3,25% de leur marché devraient donc se méfier des belles promesses. Il y a les producteurs de lait, de volaille et d'œufs qui sont bousculés par l'entente, mais d'autres producteurs québécois dans le secteur agroalimentaire pourront en profiter, notamment dans le porc, le sirop d'érable et la canneberge, comme d'autres secteurs économiques d'ailleurs au Québec et dans le reste du Canada. On peut déplorer, dit Mme Breton, la façon dont le gouvernement a mené les négociations et le fait qu'elles aboutissent à la fin d'une longue campagne électorale où le Parti conservateur tente d'en tirer avantage. On ne peut toutefois balayer du revers de la main une entente avec 11 autres pays qui offrent de nouvelles occasions d'affaires. Je vais tout de suite aller voir dans la Tribune ce qu'on dit sur le sujet. Alors, c'est M. Dufresne dans la Tribune qui revient sur ce 3,25%. Je vous le rappelle, c'est Stephen Harper qui a annoncé hier que cet accord ouvre une brèche qui permettra aux producteurs étrangers d'accaparer jusqu'à 3,25% du marché des produits laitiers. Une formule de compensation totalisant 4,3 milliards de dollars sur 15 ans est toutefois prévue, dit M. Dufresne, pour soutenir les producteurs qui seront pénalisés. C'est un moindre mal. Ce montant représentera la facture que devront payer les contribuables pour aider les agriculteurs canadiens à tenir le coup devant l'importation de produits souvent subventionnés. Autrement dit, tout ça va avoir un contre-coup sur nos portefeuilles et dans le panier d'épicerie. En effet, dit M. Dufresne, si le gouvernement canadien a dû mettre le programme de gestion de l'offre sur la table lors des négociations, les subventions agricoles versées par les États-Unis, par exemple, ne l'étaient pas. On ne connaît pas les détails de l'entente et on ne peut pas savoir si les compensations annoncées seront suffisantes. Mais en divulguant que dès l'entrée en vigueur de ce traité, le gouvernement fédéral devra aider les agriculteurs touchés, M. Harper ne reconnaît-il pas qu'il y aura des dommages collatéraux? N'aurait-il pas mieux valu présenter une véritable formule alternative pour ce secteur agricole majeur au Québec plutôt qu'un pansement? Le ministre québécois de l'économie, Jacques Daou, a sans doute donné l'heure juste hier en déclarant que si Ottawa parle de compensation, c'est parce qu'il y a une perte. Il y a toujours un prix à payer pour parvenir à un accord commercial international et accéder à un plus grand marché. Du reste, le Canada doit faire partie du PTP. Cet accord qui regroupe 12 pays de la région, je vous les ai déjà cités un petit peu plus tôt, ne touche pas que l'agriculture. Il va donner aussi à plusieurs secteurs d'activité, acier, machinerie, matériel agricole et technologie notamment, un accès à 800 millions de consommateurs, nous rappelle M. Dufresne. Alors plusieurs feront valoir que perdre 3,25% d'un marché agricole, ce n'est pas dramatique. Il s'agit toutefois d'une perte de revenus pour les producteurs de lait, de volaille et d'œufs, qui s'ajoutera à l'augmentation des importations du fromage européen en 2013 dans le cadre de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, une mesure qui touche particulièrement le Québec. J'imagine que c'est une erreur de frappe, c'est non pas 2013 mais 2016 qu'il aurait fallu écrire et lire. Alors voilà, pour l'instant, comme je vous le disais, on s'inquiète dans les journaux. Il y a aussi des caricatures sur le sujet. Par exemple, nous sommes dans un champ et Hervé Philippe qui nous a dessiné trois vaches en train de brouter. Il y en a une qui ne dit rien, mais il y en a deux autres qui s'expriment au sujet de ce partenariat transpacifique. Les producteurs laitiers estiment être les grands perdants. Il y a une vache qui dit « Bah, on devrait peut-être donner le droit de vote aux vaches ». Puis l'autre qui répond « Moi, je ne sais pas pour qui je voterai, mais je sais pour qui je ne voterai pas. » Et puis dans le quotidien, mais aussi ça a été relayé dans tous les journaux de la région, la chronique de Gilbert Lavoie qui s'appelle « Tannée de la campagne ». C'est vrai qu'elle est bien longue cette campagne électorale, mais sa durée comporte des avantages, dont celui de pouvoir tester les candidats et les partis politiques sur un plus grand nombre de sujets et surtout beaucoup d'imprévus. Parce que c'est ça l'exercice du pouvoir, prendre les bonnes décisions et poser les bons gestes sur des questions complexes et des situations très souvent imprévues. La question du NICAB nous en a donné un bon exemple, mais l'entente d'hier sur le partenariat transpacifique en est un autre. Comment réagir devant un tel accord qui comporte des avantages, mais qui fait courir des risques à nos agriculteurs et aux travailleurs de l'industrie automobile canadienne ? L'économie, c'est le plan de match des conservateurs depuis le tout début en parallèle avec la sécurité. Le NICAB a fait revivre les questions de sécurité. Le partenariat transpacifique donne un nouvel élan aux questions économiques. On est bien loin des maladresses du gouvernement Harper pendant la crise des migrants et plus loin encore des scandales du Sénat. Personne n'aurait cru ça possible au mois d'août, quand le procès de Mike Duffy a dirigé les caméras vers les manœuvres de camouflage du bureau de Premier ministre. C'est vrai qu'elle est bien longue cette campagne électorale et que les événements d'hier semblent favoriser Harper. Mais attention, il reste deux semaines et deux semaines. C'est l'éternité. Si vous détestez la politique ou que vous avez déjà décidé pour qui vous allez voter, c'est le temps de prendre des vacances à l'étranger ou de vous réfugier dans la nature. Place à la publicité électorale, ça va faire du bruit. Et que diriez-vous qu'on aille faire un tour du côté du milieu culturel ? Ça fait plusieurs fois que je pense à l'enlever, cette musique-là, avant le culturel, mais quand je vois le regard réjoui, le bonheur de Mathieu Tessier qui s'envole littéralement sur les accords de M. Shostakovich, que du coup, non, j'ai décidé que j'allais garder ça encore un petit moment. Alors, dans le domaine culturel, il y a cette nouvelle très triste, de la disparition de Henning Mankell. On le savait très malade. Il est donc finalement décédé du cancer. Et Michel Belair, dans Le Devoir, qui nous dit que derrière l'auteur de Polar, le père du célèbre commissaire Wallander, se cachait un humaniste, oui, impliqué jusqu'en Afrique. Il est donc mort dans la nuit de dimanche à lundi à Göteborg. Cet écrivain, cet homme engagé, ce metteur en scène, ce mécène aussi, cet homme de théâtre qui a chroniqué sa maladie et les traitements qu'il recevait sur un blog du journal anglais The Guardian durant plusieurs mois avant de succomber. Il avait 67 ans. Alors, outre sa femme, Eva, la fille du cinéaste Ingmar Bergman, et quatre fils, il laisse une œuvre immense, une sorte d'iceberg dont on ne connaît ici que la partie portant le personnage du commissaire Kurt Wallander, ce héros d'une douzaine d'enquêtes policières vendues à plus de 40 millions d'exemplaires et traduites en 41 langues. Pourtant, Henning Mankell a beaucoup écrit pour le théâtre, plus d'une trentaine de pièces, dont on a pu voir au Québec Cantilope, monté au Prospero en 2007. Et pour les enfants, en plus de signer des dizaines de mises en scène et de s'impliquer à divers niveaux et sur le continent africain. Sa mort nous révèle un géant inconnu, un immense humaniste, écrit Michel Belair. C'est en 91 que Mankell crée le personnage qu'il rendra célèbre, Kurt Wallander, commissaire de police de la petite ville d'Istat en Scanie, au sud-est de la Suède. Avant d'être un policier, Wallander est un solitaire aussi taciturne que tenace, qui cherche à comprendre les changements ayant transformé de fond en comble la société suédoise, comme le monde dans son ensemble, dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais Mankell a aussi signé une bonne douzaine de romans non wallandériens, dont certains, Le Chinois, Teabag, Le cerveau de Kennedy ou L'œil du léopard, ont connu un succès tout aussi phénoménal. Et ses livres pour enfants l'avaient déjà rendu célèbre en Europe et en Scandinavie, et en particulier deux séries fort connues, dont une seule est traduite en français. La première raconte en quatre livres l'histoire du jeune Joël qui rêve d'aventure dans le village polaire de Sveg, où Mankell a passé son enfance, et l'autre réédité en 2011 sous le titre global Le roman de Sophia, qui met en scène à travers trois romans la résilience d'une jeune Africaine victime d'une mine antipersonnelle. Alors on sait donc très peu ici qu'Henning Mankell avait déjà vécu une ou deux vies avant même de faire naître le personnage qu'il a fait connaître partout à travers le globe. Dropout gauchisant, comme une foule d'autres à la même époque, il a quitté l'école secondaire à 16 ans pour s'engager sur un cargo transportant de l'acier et du charbon en Europe et jusqu'en Amérique. Puis dès 1966, il s'accroche les pieds à Paris pendant 2 ans. À court d'argent, il revient en Suède, il trouve un poste de régisseur dans un petit théâtre de Stockholm et c'est là, dès la fin des années 60, qu'il écrit son premier texte, une pièce de théâtre, Le parc d'amusement, qui n'a jamais été traduite en français. L'Afrique a été un territoire très important, un pays très important pour Mankell. Il a mis les pieds à terre en Guinée-Bissau. À plusieurs reprises, il a raconté avoir eu l'impression d'arriver à la maison en descendant d'avion. À partir de ce moment, en 1973, il trouvera le moyen de passer la moitié de son temps sur le continent noir. Il voyage beaucoup, tout en continuant à écrire. Il vit d'abord en Zambie, puis dans plusieurs pays, avant de s'installer au Mozambique en 1986. Mankell était un homme de cause. L'ancien gauchiste des années 60 s'impliqua pour la cause palestinienne au point de s'embarquer dans la flottille pour Gaza en 2010 et d'être fait prisonnier par les forces d'intervention israéliennes. Lui et sa femme, Eva Bergman, se sont impliqués concrètement dans une foule de projets. Près de Chimwao, par exemple, à l'ouest du Mozambique, ils ont donné 15 millions de couronnes suédoises. Ça, c'est l'équivalent de près de 2,5 millions de dollars canadiens à SOS Village d'enfants pour ériger une petite communauté accueillant des enfants orphelins du sida. Et puis Mankell s'est aussi beaucoup impliqué en Ouganda et un peu partout sur le continent dans le projet de livre de mémoire soutenu par Plan. PLAN, une ONG de solidarité internationale. Ce projet de livre destiné aux enfants de parents morts du sida a occupé beaucoup de son temps. Il décrit merveilleusement la compassion envahissante qui animait Henning Mankell. On en trouvera d'ailleurs une touchante illustration dans un documentaire vidéo. Il a participé également à foule d'autres projets, dont celui visant à restaurer les manuscrits presque détruits de l'ancienne grande bibliothèque de Tombouctou. L'Afrique a rendu ma vie plus riche, disait Henning Mankell. Le fait de travailler avec des gens de cultures différentes vous fait prendre conscience du fait qu'il y a toujours plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Il conclut son article, ce journaliste du Devoir, Monsieur Michel Belair, par ces mots : si la mort pouvait faire qu'on l'entende. Autre sujet, et assez en bref, Monsieur Roson veut faire vibrer la ville avec des Olympiades boréales, du sport en plein air, oui, l'hiver, pour un anniversaire. La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal envisage la tenue, en février 2017, de premières Olympiades boréales dans la métropole. L'événement va, entre autres choses, proposer un marathon d'hiver et plusieurs autres activités sportives hivernales à l'extérieur, indiqué en primeur lundi le commissaire aux célébrations, nul autre que Gilbert Roson. Également dans le domaine culturel et dans le devoir, puisque j'y suis, l'UNESCO, bien sûr, condamne vivement la destruction de l'Arc de Triomphe. Il n'y aura pas d'impunité pour les criminels de guerre, promet l'organisation. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a vivement condamné lundi La destruction en Syrie par le groupe État islamique de l'Arc de Triomphe de Palmyre, monument deux fois millénaire et symbole de cette cité antique classée au patrimoine mondial. Cette nouvelle destruction montre à quel point les extrémistes sont terrifiés par l'histoire et la culture et les font apparaître pour ce qu'ils sont. Une pure expression de haine et d'ignorance, a fustigé Mme Bokova dans un communiqué. Il n'y aura pas d'impunité pour les criminels de guerre et tout sera fait pour que les auteurs de ces destructions soient jugés et punis en étroite coopération avec la Cour pénale internationale, a-t-elle assuré. En dépit de leur acharnement criminel, les extrémistes ne parviendront jamais à effacer l'histoire ni à passer sous silence la mémoire de ce site qui incarne l'unité et l'identité du peuple syrien, selon la directrice de l'UNESCO. Il n'est pas question du gala de la Socan dans Le Devoir aujourd'hui. Il en est question juste quelques mots dans la presse. En fait, ce qu'on nous montre, c'est une vidéo. Ça passe très, très mal à la radio. Mais on nous dit qu'il s'agissait d'une soirée décontractée, le gala de la Socan, qui avait l'air du petit cousin des Golden Globes hier soir au Métropolis. Assis autour de tables rondes avec du vin qui coulait à flot, les gens de l'industrie ont applaudi avec chaleur leurs comparses, dont Gilles Vigneault, Marie-May, Alex Nevsky, Kevin Parent et Vincent Hier. Je dois dire que Gilles Vigneault, que je vois ici en photo, avait l'air particulièrement en forme et ça fait plaisir et du bien de savoir M. Vigneault en forme. Changement de sujet complètement, on passe en musique classique. On se demande si Yannick Nézet-Séguin ne serait pas pressenti par le Met, le Metropolitan Opera de New York. Après Montréal, Rotterdam et Philadelphie, c'est hallucinant. Le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin pourrait-il s'établir à New York ? C'est du moins ce qui se discute dans les coulisses du Metropolitan Opera, rapporte The New Yorker, selon lequel le Québécois serait pressenti pour succéder à James Levine, directeur musical de la mythique institution depuis 1976. En septembre dernier, Nézet-Séguin a d'ailleurs ouvert la saison 2015-2016 du Metropolitan Opera en dirigeant Othello, l'opéra de Verdi. Cette collaboration spéciale dans La Grosse Pomme aurait possiblement démarrer la machine à rumeurs. On sait que James Levine a connu ces dernières années des problèmes récurrents de santé. Après quelques mois d'absence, il a de nouveau annulé sa présence en novembre prochain, alors qu'il devait diriger l'opéra Lulu du compositeur Alan Berg. Et puis de son côté, ce n'est pas la première fois que Yannick Nézet-Séguin attire l'attention des grands orchestres du monde. En plus d'être à la tête de l'Orchestre métropolitain de Montréal depuis l'an 2000, le Québécois dirige aussi l'Orchestre de Philadelphie depuis septembre 2012 et l'Orchestre philharmonique de Rotterdam depuis 2008. Incroyable. Il a récemment annoncé qu'il quitterait ce dernier en 2018, soit 10 ans après son arrivée. Oui, les petits papiers. Merci, mon petit Mathieu. La maturité, ça s'appelle, c'est encore parce qu'il sera question des émissions « On n'est pas couché » et tout le monde en parle, mais cette fois-ci sous la plume de Marc Cassivi. Je vous avais lu un petit peu plus tôt, dans l'émission, un papier de Boccoté sur le sujet. Alors cette fois-ci, c'est Cassivi qui s'exprime et qui parle de maturité. Il dit « Le contraste était saisissant dimanche soir entre deux talk-shows diffusés chez nous à la même heure, à la facture semblable, créés selon le même moule, le français « On n'est pas couché » en rediffusion et tout le monde en parle en version québécoise. » Alors qu'à tout le monde en parle, dit Cassivi, les invités ont discuté de diverses questions de société dans un consensus unanime. À On n'est pas couché, le philosophe Alain Finkielkraut a fait face à un féroce concert de critiques pendant plus d'une heure. sans broncher. La semaine précédente, le passage sur le grand plateau de Radio-Canada de Stéphanie Trudeau, alias matricule 728, avait causé toute une commotion. Les médias ont fait leur chou gras du traitement réservé à l'ex-policière par deux invités, le cinéaste Philippe Falardeau et le comédien Patrick Huard, qui a à peine ouvert la bouche, nous rappelle Cassivi. Essentiellement, on a reproché à Tout le monde en parle de dénoncer avec trop d'insistance et en tir groupé les bavures policières d'une policière impénitente soupçonnée d'avoir commis des bavures. Le scandale, dit Cassivi, très ironiquement. Par un prodigieux détournement de sens, on a même fini par camper en victime une exaltée de la prise de l'ours et du poivre de Cayenne-Angers, accusée de voie de fait sur un citoyen pacifiste, le monde à l'envers. Christiane Campagné a bien du mal à retenir ses rires. Mais riez, mon ami, riez. Cassivi qui dit « J'observais le ton ferme avec lequel on a accueilli Alain Finkielkraut à On n'est pas couché, comme Nadine Morano, Michel Onfray et Michel Houellebecq avant lui, depuis le début de la saison. Et je me suis dit qu'on n'aurait pas assez d'un an pour se remettre d'un tel échange au Québec, tellement il susciterait la polémique. Il suffit chez nous, dit-il, que l'on réfute avec conviction les arguments d'un autre pour être traité de bourreau. » Et là, il passe ce commentaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'une tristesse. On ne peut être contre la vertu. Je suis le premier à trouver que l'on ne valorise pas le métier d'enseignant au Québec et que la sourde oreille du ministre Blais sera lourde de conséquences. Mais il se trouve des gens qui ne partagent pas mon point de vue, ni celui des trois professeurs invités sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche, qui étaient d'ailleurs tous du même avis. Si l'on ne craignait pas aussi maladivement la polémique chez nous, quelqu'un sur le plateau de Tout le monde en parle aurait émis quelques objections aux revendications des profs et osé au moins une réserve sur le livre témoignage de la comédienne Ingrid Falaise. « Je ne dis pas que je serais d'accord avec eux, dit Cassivi. Je dis seulement que dans une société mature, qui ne craint pas la confrontation des idées, ni les échanges musclés, on ne se formalise pas pendant 10 jours qu'un acteur donne du bout des lèvres son avis sur un cas présumé de brutalité policière. » Et on se demande pourquoi les artistes n'osent pas se prononcer sur des enjeux politiques, nous dit Cassivi. Malheureusement, chez nous, je l'ai déjà écrit et je le répète, on préfère fuir le débat. On n'a que très peu de tolérance pour les avis contraires, surtout ceux opposant des intellos. Patrick Huard, intello? Ça, c'est une question aussi que pose Cassivi au bon peuple. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles on donne si peu la parole aux intellectuels dans les médias, en particulier à la télévision, Normand Baillargeon étant, à Tout le monde en parle, l'exception qui confirme la règle. Les intellectuels sur la place publique, ce n'est pas ce qui fait défaut en France, dit Cassivi. Certains estiment même qu'une poignée d'entre eux occupe trop d'espace médiatique. Hier, le quotidien Libération publiait à la une ce titre irrité. Contre Zemmour, Finkielkraut, Onfray, oui, on est bien pensant, et alors ? Le journal de gauche reproche à ces intellectuels conservateurs de se prétendre ostracisés par l'intelligentsia progressiste, alors qu'ils sont omniprésents sur les tribunes. Stop à la Réac Academy, titrait aussi Libé, toujours adepte du calembour, en réaction au récent passage sur le plateau d'On n'est pas couché d'Alain Finkielkraut, Michel Onfray et Éric Zemmour. Ils sont les faux martyrs, les faux exclus, les faux parias, les faux dissidents et au bout du compte, les faux prophètes, a écrit Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin qui a aussi déclaré, lui qui est directeur de la rédaction de Libération, « Au lieu d'avancer à visage découvert, de dire clairement qu'on est conservateur, traditionnaliste, nationaliste ou anti-musulman, on prend un détour et on joue au billard. » Il conclut comment ? Monsieur Cassivi, le hot seat de plus d'une heure fascinant. Il est toujours avec l'émission de Ruquier. On fait connaissance avec Jules Benchetrit, le fils de 17 ans de la regrettée Marie Trintignant, qui a déclaré lorsqu'on lui a demandé son avis sur la discussion « Les avis sont divergents, c'est intéressant. » Et Cassivi qui dit « Si seulement on avait sa maturité. » « Voilà, moi, je vais vous laisser sur ces mots-là. Nous, on va se quitter en très bons termes. On ne va pas du tout se crêper le chignon avec Christiane Campagna, qui est déjà en studio pour vous présenter, bien évidemment, le bulletin du handicap. Je voudrais remercier mon camarade Mathieu Tessier pour sa belle présence sympathique, comme tous les jours. Merci à vous de nous avoir choisis. Je vous rappelle que j'ai besoin encore de collaborateurs pour l'émission Les Voix de Service. Alors, si l'envie vous prend de faire de la radio, rendez-vous sur www.vuesetvoix.com. Vous pouvez nous envoyer un commentaire si vous allez simplement dans l'émission Les Voix de Service. Envoyez donc un petit mot pour nous dire oui, moi, je suis intéressé à venir partager des papiers que je trouve dans les journaux ou dans les revues. Oui, on pourrait aussi par téléphone, mais bon, allez, ce sera pour demain par téléphone. En attendant, ce serait déjà bien par courriel. Merci à vous toutes et vous tous. Bonne journée, à demain, 9h.
Bonjour, mon nom est Daniel Ferrière et vous écoutez Canal M, la radio de Vuesetvoix.
Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Campagna et voici vos manchettes en ce mardi 7 octobre. 6. Je ne l'avais pas bien écrit. Salon des aînés Nord du Québec, première édition. Un nouvel outil pour combler le manque d'emploi pour les personnes handicapées en Ontario. 10 ans de logements adaptés pour les personnes handicapées de Repentigny. Un souper bénéfice au profit de Cybercible dans Lanaudière. Les top modèles de moins de 1,30 m défilent à Paris. Et l'athlète paralympique Diane Roy, honorée au gala de l'entreprise du Témiscouata. Le Salon des aînés Nord du Québec sera présent partout en Jamésie du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2015. Cette première édition est rendue possible grâce à la collaboration de l'Appui Jamésie, l'administration régionale Baie James, la Table régionale de concertation des aînés du Nord du Québec, ainsi que les comités locaux qui ont orchestré dans chacun de leurs milieux une édition représentative des besoins et des demandes des aînés de la Jamésie. Pour favoriser la participation du plus grand nombre d'aînés, le comité régional a choisi d'envoyer et d'initier une caravane d'exposants régionaux qui sillonnera la région pour accompagner les exposants locaux. L'implication de tous ces représentants d'organismes de service à la population dans chacune des municipalités visitées permettra d'en apprendre davantage sur les programmes et services de santé publique, de discuter avec des intervenants de différents secteurs et de se familiariser avec les services d'organismes comme l'Appui Jamésie pour les proches aidants d'aînés. Plus de 20 exposants seront sur place dans chacune des municipalités afin de démontrer la panoplie de ressources à la disposition des personnes âgées pour assurer le maintien de leur qualité de vie, autant du point de vue de la santé, de l'implication sociale que de leur sécurité. L'objectif du Salon des aînés du Nord du Québec, première édition, est de regrouper sous un même toit des organismes communautaires, entreprises et professionnels qui agissent et interviennent pour les aînés et qui ont pour mission d'améliorer leur qualité de vie, mais aussi celle des aidants naturels ou des proches qui les côtoient dans chacune des municipalités de la Jamésie. En tout, ce sont 9 représentants d'organismes régionaux qui couvriront un itinéraire de 1300 km, 70 intervenants locaux qui sont mobilisés, 3 conférenciers professionnels et toute la population est attendue de 13h à 18h. Le 5 octobre à Villebois et Valcanton, le 6 octobre à Matagami, le 7 octobre à Lebel-sur-Quévillon, le 8 octobre à Chapais et le 9 octobre à Chibougamau. Un guide de l'employeur a été élaboré pour aider à la fois les organisations à être plus inclusives et les employeurs à se conformer à la norme de la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Les employeurs négligent souvent cette main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, stable et sous-utilisée, mais disponible dans sa collectivité, et c'est une perte pour les entreprises, soutient Ruth Wright, directrice recherche sur la gestion des ressources humaines au Conference Board du Canada. Les organisations inclusives et accessibles aux personnes de toute capacité ont un meilleur rendement. Ces caractéristiques ont un effet positif sur leurs résultats nets. Pour le Conference Board du Canada, en partenariat avec le programme Interaction pour le changement du gouvernement de l'Ontario, on a publié le guide « Savoir tirer parti du potentiel des personnes handicapées », guide de l'employeur pour aider les employeurs de toute taille à mettre en œuvre des changements simples permettant de rendre leur milieu de travail plus inclusif à l'égard des personnes handicapées. La Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario de 2005 a donné lieu à la création de la norme sur l'emploi qui aide à donner une chance égale à cet important segment de la population. Le guide de l'employeur aide les employés ontariens à comprendre et à mettre en œuvre la norme sur l'emploi en offrant des conseils, des scénarios concrets ainsi que des outils et modèles utiles. Notre guide aidera les organisations à promouvoir la diversité et l'inclusion dans leur milieu de travail, à répondre aux exigences de la norme sur l'emploi et, élément tout aussi important, à attirer et retenir un bassin de talents élargi, conclut Ruth Wright. Le guide peut être obtenu gratuitement sur le site web du Conference Board du Canada. C'est avec beaucoup d'émotion que les partenaires, les membres et le personnel de l'organisme Les Amandiers se sont réunis à Repentigny pour souligner le 10e anniversaire de l'organisation. En 2005, l'organisme Les Amandiers voyait le jour. 8 ans plus tard, en 2013, un nouveau point de service ouvrait ses portes à Terrebonne. Les Amandiers, c'est la défense de droits, des loisirs, du transport adapté et de l'hébergement, mentionne Annie Lemay, directrice, et Marie-Hélène Gagnon, coordonnatrice. Les mots « ténacité », « passion » et « patience » étaient sur les lèvres alors que plusieurs personnes ont pris part à la création des Amandiers et se remémoraient les étapes desquelles a découlé le projet de logement adapté avec services pour personnes handicapées physiques. L'idée d'une alternative de logement pour les personnes handicapées a germé, a pris son envol et un comité a vu le jour, se rappelle Jean Labranche, membre des Amandiers et initiateur du projet qui souligne au passage le travail essentiel des préposés. « Que serions-nous sans eux? Notre vie serait pénible et moins agréable », ajoute-t-il. À ce jour, l'organisme permet de loger 10 personnes à Repentigny et 14 à Terrebonne, chiffre qui devrait peut-être augmenter d'ici la fin de l'année. La directrice espère voir le troisième projet se réaliser d'ici 2017. « Cela va dépendre du financement. Nous avons besoin d'au moins 500 000 $ récurrents pour loger une douzaine de personnes dans un troisième point. Avec 80 personnes sur la liste d'attente, nous travaillons fort pour l'ouverture de ce troisième point de service. » Encore une fois cette année, l'organisme Cybercible réalise une levée de fonds qui aura lieu le 21 octobre prochain à la salle de réception Lambroisienne de Saint-Ambroise de Kildare. Le but de la soirée est d'amasser de l'argent servant à financer les formations, de même que l'encadrement de candidats atteints d'une déficience intellectuelle afin de les intégrer à un emploi. L'organisation lanaudoise, qui est en activité depuis 2008, a notamment comme mission d'aider les personnes à risque d'exclusion sociale à développer leurs aptitudes socio-professionnelles. Cybercible dessert la région de Lanaudière et permet à de nombreuses personnes de réaliser un parcours d'intégration. Cybercible estime que cette approche est très valorisante pour tous les gens impliqués dans le processus. Les gens qui désirent s'inscrire à cet événement doivent le faire avant le 12 octobre prochain au 450-834-4440 ou à l'adresse courriel cybercible@gmail.com. Le coût du billet est de 80 $ et l'objectif de cette levée de fonds est de récolter 10 000 $. À bas les dictats des podiums, glamour et surdelles, une dizaine de mannequins de petite taille, américaines et françaises essentiellement, ont défilé le 2 octobre 2015 sous les bravos du public lors de la prestigieuse Fashion Week de Paris. Seul critère de casting pour ces top modèles atypiques qui portaient des tenues créées sur mesure par l'agence new-yorkaise Creative Business House, ne pas dépasser 1,30 m, bien loin des mannequins longilignes qui arpentent habituellement les podiums. Certaines, comme la Californienne Christine, avaient déjà participé à la Fashion Week de New York. Pour la Française Emma, c'était une première. « C'est pour changer le regard des gens sur nous et parce que j'aime la mode que j'ai eu envie de défiler », explique-t-elle à l'AFP. Et cela pourrait donner l'idée aux créateurs de faire des vêtements pour nous, car il n'existe rien de prêt à porter. L'industrie de la mode ne s'intéresse pas à cette clientèle trop confidentielle, confie Myriam Chalek, fondatrice et dirigeante de Creative Business House et vice-présidente de l'association « Donnons-leur une chance ». L'athlète paralympique Diane Roy a reçu le prix personnalité lors du récent gala de l'entreprise du Témiscouata. En effet, respectant la tradition implantée depuis quelques années, la SADC de Témiscouata a rendu hommage à une personne du territoire où est présenté le gala. Cette ambassadrice du Témiscouata, Latif de Lac des Aigles, a obtenu 5 médailles paralympiques depuis 1996, participé à 90 marathons en fauteuil roulant et à plusieurs championnats du monde. C'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Le bulletin ainsi que les liens vers les nouvelles et organismes sont disponibles au Vues et Voix. Bonne journée tout le monde.